Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Jokowi apprécie le désir de la Bulgarie d'être une sorte de pont entre l'Asie et l'Europe. L'Indonésie et la Bulgarie ont convenu l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques. L'Australie a exprimé son intérêt avec Java West. La ministre Susi rejette encore les navires de pêche étrangères entre l'Indonésie. Luhut a dit « c'était nécessaire l'envoyé spécial pour le Pacifique Sud ». Le gouvernement a recueilli 17 pays pour soutenir l'Indonésie comme membre de l'OAC. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a salué la volonté de la Bulgarie de devenir un pays qui comble des intérêts commerciaux de l'Asie et de l'Europe. Cela a été dit le président Jokowi lors de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Danil Mitov, et sa délégation au palais présidentiel à Jakarta mercredi. La ministre des Affaires étrangères, Retno Elpemarsudi, qui accompagnait le président Jokowi à la réunion, a déclaré que la Bulgarie avait l'espoir de devenir une sorte de pont entre l'Asie et l'Europe. La Bulgarie est l'un des pays de l'Union européenne qui sont les plus proches de l'Asie. Selon Retno, l'Indonésie a également apprécié la politique du président de la Bulgarie liée à East Work Policy. Cette politique est une tentative de la Bulgarie d'élargir ses relations avec l'Asie et l'Indonésie est l'une des priorités dans le développement de cette réunion. Le président Jokowi, lors de la réunion, expliquait également la question du développement économique mondial ou le développement économique de l'Indonésie, en particulier dans le dernier trimestre de l'année dernière, a atteint 5,04%. En outre, le président Jokowi a également parlé des questions de développement des infrastructures dans le pays, qui a également été accueilli avec une exposition similaire du ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie sur les projets d'infrastructures dans ce pays. Lors de la réunion, ils ont convenu l'engagement à améliorer les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue de la Bulgarie, Danil Mitov, ont signé le mémorandum d'entente de la prolongation de la coopération de visite de l'exemption de visa pour les titulaires des passeports diplomatiques des deux pays. La ministre Retno a affirmé hier au ministre des Affaires étrangères que cet accord faisait partie des efforts pour intensifier les relations bilatérales entre les deux pays. En outre, dans cette réunion, l'Indonésie a accordé la fondation de la Commission économique conjointe qui se tiendra en Bulgarie en 2017.
You just observed that we signed the amendment
to the. Nous venons d'être signé l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Je voulais partager avec vous, lors de la réunion avec le ministre, nous avons discuté des problèmes liés aux relations bilatérales. Tout d'abord, je mentionne les efforts de relations économiques nécessaires pour renforcer notre relation économique bilatérale, en particulier sur le commerce et l'investissement. La Bulgarie est le 9e plus important partenaire commercial pour l'Indonésie de l'Europe centrale et orientale. Nous le voyons comme potentiel pour intensifier une meilleure relation. C'est pourquoi nous sommes d'accord pour avoir une commission économique conjointe en 2017. De l'an 2017 à l'an 2019, nous nous efforcerons plus dur pour augmenter la coopération économique via la commission économique conjointe qui se tiendra en Bulgarie en 2017. La ministre Retno Marsudi a ajouté que non seulement dans le domaine économique, l'Indonésie et la Bulgarie intensifieront également les relations dans les domaines de l'éducation et de la culture. Ce mois-ci, le ministre indonésien de l'Éducation et de la Culture, Anies Baswedan, visite en Bulgarie et ont signé un mémorandum d'entente de la coopération dans le domaine culturel. Chaque année, l'Indonésie jouait le rôle actif dans l'Olympiade des mathématiques en Bulgarie. Lors de la réunion, ils ont également discuté le plan de la mise en place du groupe parlementaire d'amitié Indonésie-Bulgarie au Parlement indonésien. À la même occasion, le ministre Daniel Mitov a affirmé que sa visite en Indonésie était dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques Indonésie-Bulgarie. Il voit l'Indonésie comme l'un des pays plus importants dans l'ASEAN et a divers potentiels de la coopération dans divers domaines. Le consul général de la République d'Indonésie à la Nouvelle-Galles du Sud, Queensland et l'Australie du Sud, son Excellence Yayan Giha Mulyana a dit mercredi à Bandung que le gouvernement de l'État d'Australie du Sud a exprimé son intérêt dans la coopération avec le gouvernement de Java West dans le cadre de la province Jumel. Cela a été transmis en marge d'une visite de travail le mercredi à Bandung, Java West. Selon le gouvernement de l'État d'Australie du Sud, Java West a le potentiel et la proximité, notamment dans l'aspect de la culture.
Prioritas dari Indonesia bagi Australia Selatan adalah Jawa Barat. Mengingat potensi dan kedekatan dari aspek budaya.
La priorité de l'Indonésie pour l'Australie du Sud et Java West en raison de potentiel et la proximité des aspects culturels. L'Australie du Sud est connue comme un pays de festival, l'état culturel. Son icône est l'état de festival. Java West est une région qui est riche en culture. Par conséquent, elle est choisie comme partenaire pour la coopération de Sister Province. En plus de la rencontre avec le gouvernement de l'Ouest de Java, le consul général de la République d'Indonésie à la Nouvelle-Galles du Sud, Queensland et de l'Australie du Sud, son Excellence Yayan Giha Mulyana, a visité la Radio République Indonesia ou RRI Bandung. La visite avait pour but d'informer de l'intérêt du gouvernement de l'État d'Australie du Sud pour la coopération dans le domaine de la présentation de l'information. Selon le consul général Yayan, le gouvernement australien du Sud veut se présenter à la population de l'Ouest de Java, en particulier dans l'éducation et la culture, ainsi que le potentiel d'affaires qui peut être construit entre les deux régions. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujastuti, continue de rejeter fermement les navires de pêche étrangères qui opèrent dans les eaux de l'Indonésie et donne la priorité aux pêcheurs locaux pour gérer les ressources halieutiques nationales. Cela a été déclaré par le directeur général de l'amélioration de la compétitivité des produits de pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Nilanto Perbowo, mercredi à Jakarta. Selon Nilanto Perbowo, la politique de la ministre Susi a fermement déclaré que la pêche en mer est uniquement destinée à l'investissement dans le pays. Jusqu'à présent, le président Joko Widodo a publié des programmes qui rendent plus facile pour les parties à investir en Indonésie. Le ministre coordinateur des affaires politiques, de la justice et de la sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, estime l'importance de l'envoyé spécial pour la région du Pacifique Sud dans le cadre des efforts de l'Indonésie pour renforcer ses relations bilatérales avec les pays dans cette région. C'est ce qu'a déclaré Luhut Binsar Panjaitan dans une conférence de presse qui a eu lieu sur un Boeing 737-400 de l'armée de l'air indonésienne qui transportait des délégations indonésiennes de Jayapura en province de Papouasie à Suva en République des Fidji mardi matin. Luhut a affirmé que l'existence d'un envoyé spécial pour la région du Pacifique Sud devrait intensifier la communication de l'Indonésie avec le gouvernement et le peuple des pays dans cette zone qui plus tard aidera à renforcer la diplomatie de l'Indonésie à cette zone. L'Indonésie est souvent l'attention du monde dans les questions des droits de l'homme, tandis que les violations graves des droits de l'homme sont commises par d'autres pays. La présence de l'envoyé spécial pour la région du Pacifique Sud pourrait apporter des messages réels de l'Indonésie, car il concerne également la question de la souveraineté de l'État unitaire de l'Indonésie. Le ministère des Transports, via l'envoyé spécial pour l'élection des membres du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, Indro Yono Susilo, a rassemblé 17 pays pour recueillir le soutien pour que l'Indonésie soit élue dans cette élection. Indro Yono Susilo, lors des dialogues mondiaux de l'aviation sur la base des mesures de Marseille 2016 à Denpasar, mercredi, a présenté l'importance de l'Indonésie d'être membre du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale dans la période 2016-2019. Il a expliqué que 45% du trafic aérien mondial était contrôlé en Indonésie à travers le service de la région d'information de vol. En outre, l'Indonésie possède 237 aéroports, y compris 27 aéroports desservant les vols internationaux. L'un des 27 aéroports, l'aéroport international Soekarno-Hatta, est inclus dans la liste des 10 aéroports les plus fréquentés au monde, selon le Conseil international de l'aéroport. Les pays invités sont entre autres le Canada, la France, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Malaisie, la Corée, l'Angleterre et la Norvège. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sanjim Longten, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, l'Indonésie effectue à nouveau le recensement économique. Depuis en 1996 et 2006, l'Indonésie a régulièrement procédé à un recensement économique. Cette année, à partir du 1er au 31 mai, le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des statistiques, BPS, organisera à nouveau un recensement économique. Cela vise à obtenir les informations de l'économie des nations comme base de la formulation des politiques et de la planification de développement national et régional. La collecte des données de tous les secteurs sera en mesure de produire une image complète du niveau et de la structure de l'économie non agricole. Cela signifie qu'une base de sondage est disponible pour différentes activités de l'enquête sur le domaine économique, comme l'enquête sur les prix, sur la production, la distribution, les services, etc., ainsi que la mise en place d'une base de données. Au milieu de l'augmentation de la concurrence mondiale, le développement économique doit être fait aussi soigneusement que possible afin d'améliorer la compétitivité. La mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN, AEC, à la fin de l'an 2015, devient un moment crucial pour l'Indonésie afin de planifier des activités économiques plus compétitives afin de ne pas perdre la compétitivité avec d'autres pays de la région de l'ASEAN. Réellement, les données du recensement économique 2016 peuvent être utilisées par le gouvernement pour l'évaluation, la planification et la politique de développement économique. En connaissant le motif et la tendance du développement économique au cours de la première décennie 2006 à 2016, le gouvernement peut devenir la conception de développement économique meilleur, au moins pour une décennie à venir, à savoir 2026. La conception principale est très nécessaire pour compléter la planification de la main-d'œuvre, surtout pour anticiper l'augmentation de l'âge productif à l'ère de bonus démographique, dont le pic se produira dans les années 2028-2030. Pour le monde des affaires, les données du recensement économique 2016 peuvent être un élan pour développer des affaires, de créer de nouvelles affaires et des affaires efficaces. Ainsi, les hommes d'affaires peuvent comprendre les caractéristiques des affaires conformément à l'échelle d'affaires et de la cartographie de la compétitivité des affaires par région. Les secteurs d'affaires qui seront enregistrés dans le recensement économique 2016 sont entre autres le secteur minier, l'industrie de transformation, le grand commerce et le commerce de détail, l'information et la communication ainsi que la construction. Le recensement économique effectué par le BPS en mai décrira la structure de la nouvelle économie indonésienne. L'an 2 est dû à la croissance des industries en ligne. BPS a le projet de cibler le secteur de l'e-commerce dans le recensement. On estime que cette année, il y a 24 millions d'entreprises à enregistrer dans toute l'Indonésie. Cela augmente par rapport au total d'affaires au recensement précédent d'un montant de 22,7 millions d'entreprises. Le recensement économique 2016 utilise la méthode de dénombrement dans toute l'Indonésie, couvrant toutes les affaires économiques à moyennes et grandes entreprises. Les entités commerciales qui seront enregistrées se composent les institutions gouvernementales telles que les écoles et les hôpitaux, les institutions à but non lucratif telles que les lieux de culte, les organisations sociales, les corporations telles que les entreprises, les restaurants, les supermarchés, les hôtels et les ménages tels que les secteurs en ligne et informels. Il est prévu que les données précises du recensement économique 2016 peuvent faire le développement économique en Indonésie qui est plus avancé, de sorte que le bien-être des gens augmente également. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie de l'édition le 31 mars. Nous allons commencer le 31 mars 1928. Le monument Équateur a été établi dans la ville de Pontianak, Kalimantan Occidental. Le 31 mars 1928, l'expédition internationale dirigée par un géographe néerlandais pour déterminer la ligne de l'équateur a été arrivée à la ville de Pontianak, Kalimantan Occidental. Selon la recherche, il n'y a que 12 pays dans le monde qui est traversé par l'équateur. Mais il n'y a qu'une ville qui est exactement séparée l'hémisphère nord et du sud, à savoir Pontianak. À ce stade, le monument Équateur a été créé, à savoir à Jalan Équateur, Pontianak, Kalimantan Occidental. L'emplacement est environ 3 km du centre de Pontianak, vers la ville Mempawah. Ce monument est devenu une icône de la ville de Pontianak et visité toujours avec les visiteurs, en particulier les touristes qui viennent à la ville de Pontianak. On chante le 31 mars 1981 le détournement du drame de la piraterie d'avions Garuda DC-9 Voila. Garuda Indonesia du vol 206, ou également connu comme l'événement Voila, était un vol de Garuda Indonesia Un provenance de l'aéroport Talang Betutu Palembang à l'aéroport Polonia Medan a été détourné le 28 mars 1981 par cinq terroristes dirigés par Imran bin Muhammad Zain. L'avion avec itinéraire Jakarta-Medan était en lieu de transit à Penang en Malaisie pour faire la plein. Ensuite, l'avion a atterri à l'aéroport de Dong Muang, Bangkok, Thaïlande. Imran bin Muhammad Zain, leader d'un groupe terroriste Commando Jihad, a exigé que ses collègues ont été arrêtés après l'incident. Sisendo Bandung, Java Occidental a été libéré. Cette nouvelle a été immédiatement reçue par le gouvernement indonésien et a immédiatement déployé 30 membres du groupe 1 Paracommando Special Forces Kopassanda, maintenant Kopassus, dirigé par le général Leonardus Benjamin Murdani et adjoint des opérations, le lieutenant-colonel Sintong Hamonangan Panjaitan, et a aidé un certain nombre de forces spéciales d'Air Thaïlande. Les membres du groupe 1 par commandement qui est devenu le précurseur de l'unité détachement spécial 421. Seulement en moins de 10 minutes, ce troupe spécial a paralysé les 5 terroristes. Les piratages de l'air pendant 4 jours se terminant le 31 mars 1981. Sans formuler causant l'équipage blessé de vol et les passagers. Imran, le chef terroriste qui sont encore vivants de la libération des otages repris à l'Indonésie, plus tard condamné à mort. En termine le 31 mars 1991, le pacte de Varsovie a été terminé. Le pacte de Varsovie était une alliance militaire des pays communistes en Europe de l'Est, qui vise à s'organiser contre la menace possible de l'alliance de l'OTAN, qui a été formée en 1949. La mise en place du pacte de Varsovie a été déclenchée par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN grâce à la ratification de l'accord de Paris. Le pacte de Varsovie concourt à la dirigeant soviétique Nikita Khrushchev en 1955. Assigné à Varsovie le 14 mai 1955, ce pacte expire le 31 mars 1991, ensemble avec la dissolution de l'Union soviétique et de nombreux pays vers les anciens membres se tournent à la démocratie et officiellement terminé dans s'en réunit à Prague le 1er juillet 1991. Ces amis, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui, l'édition 31 mars. À demain.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée La communauté économique de l'ASEAN doit être une occasion pour les gens de l'Indonésie. Depuis le 31 décembre 2015, l'Indonésie a été inclue dans des 9 pays qui sont à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. La socialisation sur la communauté économique de l'ASEAN est faite depuis longtemps, mais en fait, jusqu'à présent, seulement 20% des gens qui connaissent la communauté économique de l'ASEAN ou même ne savent pas comment obtenir les avantages et ce qu'il faut faire sur le marché de la communauté économique de l'ASEAN, notamment en Indonésie. Cela a été déclaré par la directrice générale de l'information et de la communication publique du ministère des communications et de l'information, Madame Rosita Niken Widyasuti, citée par Sriwijaya Post dans le dialogue sur le thème Profiter des opportunités dans la communauté économique de l'ASEAN, tenue à Palembang, dans le sud de Sumatra. À cette fin, selon Mme Rosita, il faut avoir le rôle des médias pour éduquer le public pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, soit tirer parti des possibilités existantes et des défis existants auxquels seront confrontés toute de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. La CEA peut effectivement être une plus grande opportunité pour les entreprises ou les travailleurs en Indonésie.
Madame Niken a également déploré que 80,8% surtout des hommes d'affaires ne savent pas sur la suppression des tarifs des exportations et des importations. Il convient de noter, changer la façon de penser des gens, parce que pour les gens qui sont pessimistes, la présence de la CEA n'affectera pas bon à des entreprises locales ou des produits locaux. Cependant, l'ambassadeur d'Indonésie à la Thaïlande, M. Lutfi Rauf, a déclaré que la CEA, il y a 8 types de professions qui sont également en compétition, telles que l'ingénieur, l'architecte, personnel touristique, comptable, infirmière, médecin, dentiste et arpenteur. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, M. Hidayat Nur Wahid, a rappelé que le peuple indonésien ne se sent pas à l'aise face à la concurrence liée à la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. Selon lui, cité par Antara, respecter les autres nations, ne pas faire l'Indonésie comme une nation qui est inférieure aux étrangères. La présence de la CEA doit être faite face à l'esprit positif, car basée sur l'histoire depuis la première fois, l'Indonésie a des dimensions mondiales, entre autres l'entrée de la pensée du Moyen-Orient. Donc, la chose la plus importante à faire maintenant est d'accroître la synergie entre le gouvernement et les entrepreneurs pour améliorer la qualité de l'éducation. Pour lui, la synergie portera la valeur ajoutée dans l'éducation en Indonésie. C'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le président indonésien Joko Widodo a salué la volonté de la Bulgarie de devenir un pays qui comble des intérêts commerciaux de l'Asie et de l'Europe. Cela a été dit le président Djokovi lors de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Danil Mitov, et sa délégation au palais présidentiel à Jakarta mercredi. La ministre des Affaires étrangères, Retno Elpemarsudi, qui a accompagné le président Djokovi à la réunion, a déclaré que la Bulgarie avait l'espoir de devenir une sorte de pont entre l'Asie et l'Europe. La Bulgarie est l'un des pays de l'Union européenne qui sont les plus proches de l'Asie. Selon Retno, l'Indonésie a également apprécié la politique du président de la Bulgarie liée à East Work Policy. Cette politique est une tentative de la Bulgarie d'élargir ses relations avec l'Asie et l'Indonésie est l'une des priorités dans le développement de cette réunion. Le président Jokowi, lors de la réunion, expliquait également la question du développement économique mondial ou le développement économique d'Indonésie, en particulier dans le dernier trimestre de l'année dernière, a atteint 5,04%. En outre, le président Jokowi a également parlé des questions de développement des infrastructures dans le pays, qui a également été accueilli avec une exposition similaire du ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie sur les projets d'infrastructures dans ce pays. Lors de la réunion, ils ont convenu l'engagement à améliorer les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue de la Bulgarie, Danil Mitov, ont signé le mémorandum d'entente de la prolongation de la coopération de visite de l'exemption de visa pour les titulaires des passeports diplomatiques des deux pays. La ministre Retno a affirmé hier au ministre des Affaires étrangères que cet accord faisait partie des efforts pour intensifier les relations bilatérales entre les deux pays. En outre, dans cette réunion, l'Indonésie a accordé la fondation de la Commission économique conjointe qui se tiendra en Bulgarie en 2017.
You just observed that we signed the amendment
to the. Nous venons d'être signé l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Je voulais partager avec vous, lors de la réunion avec le ministre, nous avons discuté des problèmes liés aux relations bilatérales. Tout d'abord, je mentionne les efforts de relations économiques nécessaires pour renforcer notre relation économique bilatérale, en particulier sur le commerce et l'investissement. La Bulgarie est le 9e plus important partenaire commercial pour l'Indonésie de l'Europe centrale et orientale. Nous le voyons comme potentiel pour intensifier une meilleure relation. C'est pourquoi nous sommes d'accord pour avoir une commission économique conjointe en 2017. De l'an 2017 à l'an 2019, nous nous efforcerons plus dur pour augmenter la coopération économique via la commission économique conjointe qui se tiendra en Bulgarie en 2017. La ministre Retno Marsudi a ajouté que non seulement dans le domaine économique, l'Indonésie et la Bulgarie intensifieront également les relations dans les domaines de l'éducation et de la culture. Ce mois-ci, le ministre indonésien de l'éducation et de la culture, Anies Baswedan, visite en Bulgarie et ont signé un mémorandum d'entente de la coopération dans le domaine culturel. Chaque année, l'Indonésie jouait le rôle actif dans l'Olympiade des mathématiques en Bulgarie. Lors de la réunion, ils ont également discuté le plan de la mise en place du groupe parlementaire d'amitié Indonésie-Bulgarie au Parlement indonésien. À la même occasion, le ministre Daniel Mitov a affirmé que sa visite en Indonésie était dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques Indonésie-Bulgarie. Il voit l'Indonésie comme l'un des pays plus importants dans l'ASEAN et a divers potentiels de la coopération dans divers domaines. Le consul général de la République d'Indonésie à la Nouvelle-Galles du Sud, Queensland et l'Australie du Sud, son Excellence Yayan Gihamulyana a dit mercredi à Bandung que le gouvernement de l'État d'Australie du Sud a exprimé son intérêt dans la coopération avec le gouvernement de Java West dans le cadre de la province Jumel. Cela a été transmis en marge d'une visite de travail le mercredi à Bandung, Java West. Selon le gouvernement de l'État d'Australie du Sud, Java West a le potentiel et la proximité, notamment dans l'aspect de la culture.
Prioritas dari Indonesia bagi Australia Selatan adalah Jawa Barat. Mengingat potensi dan kedekatan dari aspek budaya.
La priorité de l'Indonésie pour l'Australie du Sud et Java West en raison de potentiel et la proximité des aspects culturels. L'Australie du Sud est connue comme un pays de festival, l'état culturel. Son icône est l'état de festival. Java West est une région qui est riche en culture. Par conséquent, elle est choisie comme partenaire pour la coopération de Sister Province. En plus de la rencontre avec le gouvernement de l'Ouest de Java, le consul général de la République d'Indonésie à la Nouvelle-Galles du Sud, Queensland et de l'Australie du Sud, son Excellence Yayan Gihamulyana, a visité la Radio République Indonésie ou RRI Bandung. La visite avait pour but d'informer de l'intérêt du gouvernement de l'État d'Australie du Sud pour la coopération dans le domaine de la présentation de l'information. Selon le consul général Yayan, le gouvernement australien du Sud veut se présenter à la population de l'Ouest de Java, en particulier dans l'éducation et la culture, ainsi que le potentiel d'affaires qui peut être construit entre les deux régions. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujastuti, continue de rejeter fermement les navires de pêche étrangères qui opèrent dans les eaux de l'Indonésie et donne la priorité aux pêcheurs locaux pour gérer les ressources halieutiques nationales. Cela a été déclaré par le directeur général de l'amélioration de la compétitivité des produits de pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Nilanto Perbowo, mercredi à Jakarta. Selon Nilanto Perbowo, la politique de la ministre Susi a fermement déclaré que la pêche en mer est uniquement destinée à l'investissement dans le pays. Jusqu'à présent, le président Joko Widodo a publié des programmes qui rendent plus facile pour les parties à investir en Indonésie. Le ministre coordinateur des affaires politiques, de la justice et de la sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, estime l'importance de l'envoyé spécial pour la région du Pacifique Sud dans le cadre des efforts de l'Indonésie pour renforcer ses relations bilatérales avec les pays dans cette région. C'est ce qu'a déclaré Luhut Binsar Panjaitan dans une conférence de presse qui a eu lieu sur un Boeing 737 400 de l'armée de l'air indonésienne qui transportait des délégations indonésiennes de Jayapura en province de Papouasie à Suva en République des Fidji mardi matin. Luhut a affirmé que l'existence d'un envoyé spécial pour la région du Pacifique Sud devrait intensifier la communication de l'Indonésie avec le gouvernement et le peuple des pays dans cette zone qui plus tard aidera à renforcer la diplomatie de l'Indonésie à cette zone. L'Indonésie est souvent l'attention du monde dans les questions des droits de l'homme, tandis que les violations graves des droits de l'homme sont commises par d'autres pays. La présence de l'envoyé spécial pour la région du Pacifique Sud pourrait apporter des messages réels de l'Indonésie, car il concerne également la question de la souveraineté de l'État unitaire de l'Indonésie. Le ministère des Transports, via l'envoyé spécial pour l'élection des membres du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI Indro Yono Susilo, a rassemblé 17 pays pour recueillir le soutien pour que l'Indonésie soit élue dans cette élection. Indro Yono Susilo, lors des dialogues mondiaux de l'aviation sur la base des mesures de Marseille 2016 à Denpasar, mercredi, a présenté l'importance de l'Indonésie d'être membre du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale dans la période 2016-2019. Il expliquait que 45% du trafic aérien mondial était contrôlé en Indonésie à travers le service de la région d'information de vol. En outre, l'Indonésie possède 237 aéroports, y compris 27 aéroports desservant les vols internationaux. L'un des 27 aéroports, l'aéroport international Soekarno-Hatta, est inclus dans la liste des 10 aéroports les plus fréquentés au monde selon le Conseil international de l'aéroport. Les pays invités sont entre autres le Canada, la France, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Malaisie, la Corée, l'Angleterre et la Norvège. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter le village touristique de Kebon Nagung. Le Bureau de la Culture et du Tourisme de la Régence de Bantul, Yogyakarta, dans la province de Java Central, possède des villages touristiques pour attirer les touristes étrangers à y visiter. Jusqu'à présent, Bantul dispose de 36 villages qui se sont formés en conformité avec le potentiel, les avantages et l'attractivité de chacun. De tous les villages touristiques, seulement quelques villages qui sont déjà indépendantes et souvent reçoivent des invités étrangers ou les touristes, entre autres le village de Kebon Nagung et le village de Wukir Sari qui sont situés dans le quartier Imogiri, le village de Tembisewon et le village touristique de Krebet qui se trouve au sous-district de Pajangan qui sont célébrés comme centre de batik Angboa. Kebon Nagung est le village touristique basé sur l'agriculture où la plupart des gens sont les paysans. Si vous y allez, vous pouvez participer à leurs activités comme paysans, tels que Nguluku, Garu et Tandur. Nguluku en indonésien signifie labourer le champ. Garou est un outil agricole en forme de peigne qui sert de niveler le sol. Tandoor est le système de plantation du paddy ou la riziculture. Cette activité sera très intéressante car elle est encore faite manuellement. Dans le village touristique de Kebonagon, vous pouvez aussi faire du tourisme de l'eau. Ici, il y a Bendung Tegal. C'est un barrage qui recueillit de l'eau de la rivière Opak. Vous pouvez étudier le système d'irrigation et aussi faire du sport de pagay et du canot à ce barrage. Il y a aussi un bateau dragon qui peut être utilisé pour entourer le Bendung Tegal. Le village touristique de Kebonagon érige un art traditionnel, y compris karawitan et jatilan. Karawitan est l'art de musique traditionnelle javanais qui se reflète à un jeu de musique gamelan. Cet art de karawitan est emballé avec des instruments rythmiques et les voix sont belles, si agréables d'être entendues et appréciées. Jatilan est un art qui combine entre la danse avec des pouvoirs magiques. Le village touristique de Kebonagon est situé dans le quartier d'Imogiri Bantul, à 17 km au sud du centre-ville de Yogyakarta, qui peut être atteint pendant 25 minutes. Ici, il y a 130 maisons qui vous pouvez vivre. Chaque maison habitable environ 6 personnes pour un coût de 100 000 rupiah par personne. Avant de partir, ne pas oublier d'acheter les artisanats typiques d'un village touristique Kebonagon, tels que le batik, batik céramique et batik masque kai. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous nous rencontrons maintenant dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Chers amis, pendant et après la saison de pluie, il y a toujours la menace de l'émergence de la dengue. Les moustiques Aedes aegypti répandent la maladie aux hommes par ses piqûres. De nombreuses formes de médicaments anti-moustiques sont vendus sur le marché. L'un des insecticides très pratiques et largement utilisé par la communauté est sous forme de lotion. Malheureusement, beaucoup des insecticides utilisent encore des produits chimiques nocifs pour la santé humaine. Bien qu'il y ait aussi un contenu des ingrédients naturels, comme la lavande et la peau d'orange, à cet égard, notre rubrique cette fois parle sur la lotion naturelle anti-moustico. Lotion anti-moustique sur le marché en Indonésie utilise encore généralement la matière chimique d'éthyltoluamide ou DEET, qui est très dangereux pour la santé humaine. Cette matière DEET est un pesticide domestique et utilisé comme ingrédient de base de la lotion contre les moustiques.
Ces matières chimiques sont très dangereuses pour la peau sensible et des plaies cutanées. Une dose excessive peut conduire à l'hypertension, les saisies, l'hépatite toxique, de la dépression respiratoire et de coma. Chers amis, voyant cela depuis 2013, André et ses amis, les étudiants de l'université Hasanuddin Makassar, Sulawesi du Nord, font la lotion anti-moustique sans DEET et utilisent l'extrait Jodia comme l'un des ingrédients naturels. La sélection d'extraits de plantes Jodia comme l'un des ingrédients de lotion car il est facile à trouver. Jodia, ou avec le nom latin, le sufiolans Euphodia, est une plante appartenant à l'espèce de Laurence ou Rutaceae, ainsi que les plantes endémiques de la Papouasie en Indonésie. En plus d'être facilement obtenue, la substance active Jodia est durable, résiste à la chaleur et pas facilement endommagée. Des recherches qui est menée, Anton a trouvé que la teneur en ingrédients actifs de Jodia de 6% est efficace pour réduire les piqûres de moustiques causant la fièvre de la dengue. Anton a expliqué que Jodia n'est pas dangereux pour la santé, à condition qu'il ne contienne pas plus de 12%. Parce que cela causera des problèmes respiratoires. Les matières actives de Jodia travaillent en impoissant le système nerveux de moustiques. La lotion Jodia peut protéger la peau contre les piqûres de moustiques pendant 6 heures. Il espère que cette découverte peut être suivie par des recherches et pourrait être produite en masse. Chers auditeurs ou chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour aujourd'hui, ayant pour le thème lotion naturelle anti-moustique. Nous vous reverrons à une autre occasion avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter la chanson en rythme pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.ce.id ou à travers notre amateur à on court sur 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur, Ade Manuto. Bon, serviteur, pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson d'Ade Manuto intitulée Virgo. Bonne écoute.
Sifat yang tenang Virgo tak pernah ragu.
rasa bimbang. Virgo, Virgo, oh, Virgo, Virgo, oh, Virgo, oh, Virgo, Virgo, tak pernah tinggi hati, Virgo, cintanya tulus suci, Virgo, Virgo, oh, Virgo, Virgo, oh, Virgo, oh, Virgo, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau yang mendapatkan kekasih bintang ini. Manja dan sayang pastilah, manja dan sayang pastilah akan kau rasakan selama hidupmu. Kalau wanita pasti rendah dan lembut hatinya dan mesra. Virgo, tak pernah rasa dendam. Virgo, mudah tuk memaafkan. Virgo,
Serviteur, c'est la chanson à des manoutous intitulée Virgo. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ce.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Ade Manhutu, dont le nom complet est Adrian Stephanus Louis Manhutu, est actif dans le monde de la musique pop d'Indonésie n'est pas longtemps. Il était présent dans les années 70 à 80, mais sa présence a coloré la musique pop d'Indonésie. Un chanteur de la chanson Mademoiselle Anna est célèbre à l'ère des années 1970 avec d'autres plus grands chanteurs à cette ère comme Bob Tutupoli Eddie Silutonga et Buri Malantika. Adé, qui est né en 1948, a commencé à être considéré comme un nouvel arrivant et a gagné la confiance pour représenter l'Indonésie dans le festival de la chanson de l'ASEAN. Au fil du temps, Adé Manuto a participé au monde de films. Il a également joué dans plusieurs films intitulés, entre autres, Gadis Simpanan, Cinta Bersemi et Penasaran. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante à Adé Manuto intitulée Mademoiselle Anna. Bonne écoute.
Engkau bergaun bersahaja. Cara hidupmu sederhana, lagak dan gayamu serasi, pertanda kau wanita berpribadi. Nona Ana, Nona Ana,
c'est la fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.